La nouvelle naissance. Le chapitre 3 de Jean présente une nouvelle vérité. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme a mangé de ce dernier et a perdu ainsi le droit au premier. Aussi est-il, dès lors, moralement mort dans ses fautes et dans ses péchés, Éphésiens 2, verset 1.
Et vous, lorsque vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés?
Sa vie naturelle est caractérisée par le péché, et il n'y a rien en elle qui puisse avoir communion avec Dieu. Cela apparaît lorsque le Seigneur Jésus vint sur la terre. En lui
était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 1, verset 4 et 5.
L'homme ne pouvait pas même comprendre la vie.
L'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folies, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. 1 Corinthiens 2, verset 14.
Cependant, Jean 1, verset 12 dit que quelques-uns ont reçu le Seigneur Jésus, et il est ajouté à leur égard qu'ils sont nés de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Ce n'est pas la foi de l'homme naturel qui l'amène en relation avec Dieu. Chapitre 2, verset 23, nous voyons que plusieurs crurent en son nom. Et si nous comparions d'une manière superficielle cette expression avec ce qui a été exposé plus haut, Jean 1, verset 13, nous devrions dire que c'était aussi des enfants de Dieu.
Jean 2, verset 23, et comme il était à Jérusalem, à la Pâque, pendant la fête, plusieurs crurent en son nom, contemplant les miracles qu'il faisait.
Ils répondent bien à ce qui est dit là, qui croient en son nom, mais il ressort de Jean 2, verset 24 et 25, qu'il n'en est pas ainsi.
Jean 2, versets 24 et 25. Mais Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme.
Ces hommes étaient convaincus par les miracles qu'accomplissait le Seigneur. Ils croyaient en lui, mais une foi qui ne repose que sur la raison ou les sentiments. Qu'il s'agisse d'une foi historique, entre parenthèses comme on l'appelle, d'hommes qui, en raison de l'entourage dans lequel ils ont été élevés, ou en raison de leur éducation, ne doutent pas des vérités chrétiennes, ou qu'il s'agisse d'une foi fondée sur une simple conviction de l'intelligence ou des sentiments quant à l'exactitude et à la valeur du christianisme, une telle foi n'amène personne en relation avec Dieu.
Jésus lui-même ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes, et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, car lui-même connaissait ce qui était dans l'homme, versets 24 et 25.
Pour l'un de ces hommes, cependant, ce n'était pas seulement l'intelligence ou les sentiments, mais la conscience qui était touchée. Et, bien qu'il soit ignorant et qu'il n'ait pas saisi la lumière, il sent néanmoins qu'il y a en Jésus quelque chose dont il a besoin. Il pense qu'il pourrait être enseigné. Toutefois, l'homme naturel ne peut pas recevoir la vie simplement par la connaissance. Aussi le Seigneur lui répond :
en vérité, je te dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3.
C'était une parole bien étrange pour Nicodème. Il était un docteur d'Israël et connaissait l'Ancien Testament. Celui-ci parlait du royaume, et c'était là-dessus qu'il désirait être enseigné. Mais ses paroles avaient prouvé qu'il ne discernait pas le royaume qui était là devant lui dans la personne du Seigneur. Il avait témoigné au Seigneur le plus grand honneur qu'on puisse faire à un homme.
Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, Jean 3, verset 2.
Mais précisément, ses paroles prouvaient que lui non plus n'avait pas saisi la lumière. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé du royaume. Mais maintenant, Dieu lui-même, le commencement du royaume, était manifesté. Il s'agissait de l'essence même de la chose, et ses propres paroles montraient que l'homme naturel ne peut pas voir ce qui est de Dieu.
Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
En fait, l'homme doit posséder une autre vie pour pouvoir discerner quelque chose qui vient de Dieu. Le Seigneur parle à Nicodème de choses terrestres, du royaume, Jean 3, verset 12. Mais ce qu'il dit, ce sont des principes généraux, comme presque toujours dans l'Évangile selon Jean.
Jean 3, verset 12, « Si je vous ai parlé des choses terrestres et que vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes ?»
Une vie nouvelle est nécessaire, non pas une vie semblable à celle de l'homme naturel, mais une vie toute différente.
Qui est-ce qui tirera de l'impur un homme pur? Job 14, verset 4.
Certes, si l'homme naissait 10 fois, cela ne lui servirait de rien, car cette vie-là ne pourrait pas davantage voir Dieu. C'est pourquoi la réponse de Nicodème n'avait pas de sens. Cependant, le Seigneur s'en sert pour révéler davantage cette vérité.
En vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, verset 5.
L'eau purifie ce à quoi elle est appliquée. Ici, cela est employé figurativement, en relation avec la prophétie d'Ézéchiel 36, versets 25 à 27.
Je répandrai sur vous des eaux pures, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, et je ferai que vous marchiez dans mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez.
Au verset 10, le Seigneur fait nettement allusion à ce passage.
Jean 3, verset 10, Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses ?»
De même, le Seigneur emploie en Jean 2, le temple, versets 19 à 21, et au chapitre 4, une fontaine, versets 6 à 15, comme type.
Jean 2, versets 19 à 21, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs donc dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple. » Et toi, tu le relèveras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Chapitre 4, versets 6 à 15. Il y avait là une fontaine de Jacob. Jésus donc, étant lassé du chemin, se tenait là, assis sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme de la Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples s'en étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit donc, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Car les juifs n'ont point de relations avec les samaritains. » Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », toi tu lui eusses demandé et il t'eût donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser. » Et le puits est profond, d'où as-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné le puits, et lui-même en a bu, et ses fils et son bétail? Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cette eau-ci aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie pas soif, et que je ne vienne pas ici pour puiser. »
Si nous lisons en Éphésiens 5, verset 26 et Jean 13, verset 10, en liaison avec Jean 15, verset 3, nous voyons que l'eau est ici une image de la parole de Dieu.
Éphésiens 5, verset 26, « Afin qu'il la sanctifiant, en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole. » Jean 13, verset 10, Jésus lui dit, « Celui qui a tout le corps lavé n'a besoin que de se laver les pieds, mais il est tout net, et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. Jean 15, verset 3. Vous, vous êtes déjà nets à cause de la parole que je vous ai dite.
D'autres passages le confirment, tels que 1 Pierre 1, verset 23, Jacques 1, verset 18, 1 Corinthiens 4, verset 15.
Vous qui êtes régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la vivante et permanente parole de Dieu. Jacques 1, verset 18. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car moi, je vous ai engendrés dans le Christ Jésus par l'Évangile.
Une note en bas de page. Il est incompréhensible que quelques personnes voient en Jean 3, verset 5, le baptême. Elles pensent que le baptisé naît ainsi de nouveau. On entend parfois la pensée suivante au sujet du baptême des enfants. Au moment même où le diacre verse l'eau du baptême, le médiateur opère du ciel une opération de grâce dans l'âme de l'enfant qui est baptisé. Or le baptême ne parle jamais de vie, mais seulement de mort.
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort, Romains 6, verset 3.
Voir aussi Colossiens 2, verset 12.
Étant ensevelis avec lui dans le baptême, dans lequel aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts.
Il est bien dit des 11 apôtres qu'il baptisait, mais jamais qu'ils aient été baptisés du baptême chrétien, et c'est de cela qu'il s'agit. N'étaient-ils alors pas nés de nouveau? Les croyants de l'Ancien Testament n'étaient-ils pas nés de nouveau? Le Seigneur Jésus pouvait-il reprocher à Nicodème de ne pas connaître le baptême chrétien, Jean 3, verset 10, alors que celui-ci n'avait pas encore été révélé? D'ailleurs, l'idée que des choses matérielles, l'eau, puissent opérer la vie spirituelle, n'est-elle pas absolument païenne?
Jean 3, verset 10, Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. »
Reprise de la lecture. La parole de Dieu, dans sa puissance purificatrice, appliquée par le Saint-Esprit, implante dans l'homme une vie nouvelle. Quand la conscience est atteinte par la parole, le cœur et la conscience, les penchants, les pensées et les actes sont purifiés, et le Saint-Esprit opère une vie nouvelle. Ce n'est pas une vie naturelle, car elle est engendrée par l'Esprit de Dieu. Elle est ainsi une vie divine. L'enfant de Dieu est né de Dieu. Jean 1, verset 13.
Lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
1 Jean 3, versets 9 et 10.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Par ceci sont rendus manifestes les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même, et le méchant ne le touche pas.
De même que la vie naturelle ne peut pas être améliorée au point de pouvoir discerner les choses spirituelles et entrer en relation avec Dieu, ainsi la vie nouvelle, divine, ne peut pas dégénérer.
Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. La semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Jean 3, verset 9.
Dans les versets suivants, le Seigneur donne quelques détails nouveaux. Cette vie nouvelle ne peut être donnée qu'en vertu de l'élévation du Seigneur Jésus sur la croix, car l'homme est un pécheur. Mais l'amour de Dieu a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, elle est donc appelée la vie éternelle. Il est aussi parlé de vie éternelle dans l'Ancien Testament, Daniel 12, verset 2.
Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle.
Psaume 133, verset 3.
comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a commandé la bénédiction, la vie pour l'éternité.
Dans ces passages, elle est appelée ainsi en rapport avec la gloire du millénium, du rétablissement de toutes choses. Mais ici, elle est révélée sans la gloire. Le Fils unique du Père est là, lui qui, au moment où il parlait avec Nicodème sur la terre, était dans le ciel. Jean 3, verset 13 et 1, verset 18. Lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20.
Jean 3, verset 13. Et personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jean 1, verset 18. Personne ne vit jamais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. 1 Jean 5, verset 20. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Il ne donne pas d'enseignement sur la vie éternelle, car il en est lui-même la manifestation. Il est la vie éternelle. Quelle révélation! Quelle œuvre du Saint-Esprit! Des hommes naturels, qui sont morts dans leurs péchés et leurs fautes, deviennent, par son opération, des hommes nés de nouveau, qui ont une vie nouvelle, une vie divine, oui, la vie éternelle même, le Seigneur Jésus comme leur vie. 1 Jean 5, versets 11 à 13 et 20.
Et c'est ici le témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle.
Ainsi, nous pouvons voir ce que signifie avoir la vie éternelle. Ce n'est pas seulement que des enfants de Dieu ne mourront jamais. Cela implique la capacité de saisir les choses spirituelles, tout ce qui vient de Dieu. Cela signifie que Christ est en nous, que nous avons une vie divine qui ne peut pas pécher. 1 Jean 3, verset 9.
Le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné une intelligence afin que nous connaissions le véritable, et nous sommes dans le véritable, savoir dans son Fils Jésus-Christ. Lui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, verset 20.
Dieu nous a donné tout un évangile.
Afin qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Jean 20, verset 31.
Et toute une épître.
Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13.
Est-ce que cela se traduit aussi dans notre vie pratique par
« Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi » Galates 2, verset 20.